Blaise Hoffmann nous lit quelques extraits de son récit Estive.
Des pas sur le plancher. Deux coups à la porte et mec, c'est l'heure. J'ai dormi comme une masse, pas besoin de pousser le volet, il fait encore nuit. Il est 5 heures. Bonjour les chiens. Robert, assis à la table, salut. Un peu d'eau sur le visage. Une tranche de pain. J'y étale quelque chose. Mâchonne sans appétit. Le café boue, il est trop chaud. J'y ajoute une giclée de pommes, fait comme Robert. De la goldamine de Zoug, conséquent. Je remplis la besace de croquettes pour Maya et fume les chiens de protection qui ne quittent pas le troupeau. Robert cherche ce qui pourrait lui servir de bâton, s'en allume une et s'en va. Il prend de l'avance, tu me rattrapes. Tina et Brina le suivent, lui, car c'est mon 2e jour d'estive. Le soleil point derrière la tour du Famelon. Pas un nuage, plutôt photogénique. Les profils des sommets sont bien découpés. Robert progresse lentement. Il dessine de larges zigzags. Les pâturages laissés aux moutons sont ceux dont la pente est trop abrupte pour les bovins. Sur la carte, il se situe là où les lignes sont les plus rapprochées. Robert, assis dans l'herbe d'un côté du troupeau. Moi, assis dans l'herbe de l'autre. Lui avec Tina, moi avec Brina. Une parole, une seule. Début de l'été, les moutons grimpent. Vers la fin, ils vont vers le bas. Ils vont là où l'herbe est bonne. Tout l'été devant nous pour faire connaissance et pas besoin d'en rajouter. La matinée durant, on évite que les moutons empruntent le passage de la chaux de son côté ou filent vers le grand chalet du mien. Quand des bêtes dépassent la limite que l'on a choisie, on fait travailler les chiens. Laisse les brouter, je te dis, t'es en train de tout tasser l'herbe avec tes coups de chien. Manifestement contrarié, Robert me reproche d'envoyer Brina parfois trop tôt, parfois trop tard, toujours trop brusquement. Non, Robert n'est pas un fin pédagogue. Voilà 3 heures que je joue à un jeu dont j'ignore les règles. Le plus sûr est d'imiter ce qu'il fait de son côté, mais le troupeau n'obéit pas à une logique symétrique. Bluffer ne suffit pas. De mon côté, j'ai affaire avec la variable parasite, les vertes, les bêtes qui portent un point vert sur le dos, environ 200 brebis élevées en forêt qui, dès qu'elles le peuvent, vont s'y réfugier. Autour des 10 heures, les premières bêtes sont pleines, se couchent et ruminent. D'autres broutent encore, mais presque immobiles. Même les vertes se sont regroupées à l'ombre d'un pierrier. C'est agréable. Robert en refume une. J'ouvre un bouquin que je croyais écrit sur mesure pour la profession. Un petit format qui tient dans la poche. À peine 60 pages, 11 chapitres distincts, les 11 lettres à Pénélope. Cette lettre-ci paraissait Ulysse. C'est à Pénélope qui te l'envoie. Mais ne me réponds pas, viens. Et Colinet, va voir là-bas si ces salopes de vertes ne foutent pas le camp dans les bois. À peine le temps de lire l'épigraphe, 3 vers de vide, le livre ouvert, retourné sur la besace, et quelques pas pour contourner le troupeau jusqu'à une butte qui me permet de voir qu'elles sont toutes là. Je devine un reproche, comme une sourde angoisse entre tes lignes parce que cette guerre se prolonge. Mais ce n'est pas ma faute. La dérive a emporté ton homme dans la grimace difforme du lointain et je ne pourrai te revoir qu'après avoir lacéré la chair vive des antipodes. Chope voir celle-là, celle qui boite. Non, là, la charolaise, tu vois pas qu'elle a le piétin ? Robert a raison. L'être opaque qui gouverne les chiens contredit la littérature fragile, nuancée et soucieuse d'aller vers l'autre. Le yin contrarie le yang. Fuir l'instant présent pour s'immerger dans la vie d'un autre, l'époque d'un autre, le style d'un autre, c'est du temps perdu. À peine si les pages sont bonnes pour allumer un feu, fatiguer les yeux avant de s'endormir, écrire dans les marges le numéro de celle qui vient de mettre bas le sexe et la couleur de ses agneaux. À partir d'ici, la théorie se range au fond de la poche ou reste à la case. On s'appuie sur le bon sens, formule fétiche de ceux qui regardent comment ça marche avant de critiquer le mode d'emploi. On tient compte des résultats concrets. On anticipe les stimuli-réponses, les facteurs naturels qui régissent le système, car si chaque mouton est peureux, passif et grégaire, le troupeau possède une intelligence systémique, un rythme, des hiérarchies, des dominances, des récurrences. On observe, sans autres instruments que les yeux, la patience et l'intuition. Cela s'appelle le bon sens. Au berger, ensuite, de se montrer bon tyran, en laissant au troupeau l'illusion de la liberté. Avec cette chaffe, les bêtes ne remueront pas avant 3-4 heures. On est peinard, allons grailler. Robert se retire. D'un pas engourdi, prend la direction de la case. Un temps, j'hésite, mais la faim l'emporte sur l'envie de voir ce qui se trame derrière les crêtes. Je lui emboîte le pas. Du pain complet et presque frais. Le fromage du Grand Ayerne, dont la croûte odorante ne vous lâche pas le bout des doigts. Un saucisson sec, du beurre liquéfié et un litre de vin rouge servi dans deux verres Astérix et Obélix qui sentent encore la moutarde. Lorsque je me penche vers le robinet, il préfère me mettre en garde. Vaut mieux la bouillir, on sait jamais ce qui traîne dans ces citernes. L'an dernier, il y avait un crapaud qui bouchait l'entrée du tuyau. À l'ombre de la case, à peine le bourdonnement d'une mouche, on gueuletonne en silence, de part et d'autre d'une table en bois massif qui semble peser une tonne. « T'as pas intérêt à y faire une raye !» Robert raconte l'avoir porté sur son dos depuis la ferme de l'Avenir. C'est un cadeau de quelqu'un qui lui est cher. Lorsque je cherche à y voir un peu plus clair sur les habitudes du troupeau, les réactions des chiens, le risque de maladie et la spécificité des différents pâturages, il me répond que... Ça veut déjà assez venir. Pas besoin d'en rajouter. Un café, une sieste, et on y retourne. La panse pleine, Robert bâille et se retire. La fatigue s'installe. La nuit n'est pas prête de tomber, mais le yang me reprend et je noircis quelques feuillets, assis en tailleur sur le muret de la case, torse nu, en plein soleil, enchanté comme un vacancier. De l'autre côté de la chaux, le troupeau est silencieux. Il chôme. Naïf, un brin rêveur, je croyais à la structure innée du troupeau. Elle ne l'est pas. Dans un sens, c'est rassurant. Dans l'autre, beaucoup de travail. Plusieurs semaines pour constituer un esprit d'équipe. Des jours entiers à décourager les velléités d'indépendance, à dessiner avec l'aide des chiens le contour recherché, à réunir les bêtes tôt le matin, à ne les abandonner qu'à la nuit tombée, à réguler des éléments chaotiques et confus dans un décor mouvant et éphémère. Que fait un troupeau lorsqu'il est formé? Il se déforme. Il faut le reformer. Je pense beaucoup à toi, Sisyphe. La nuit, le troupeau se concentre. Les forces centrifuges n'éclatent qu'au premier rayon du soleil. Le système tend alors au désordre, à l'entropie. Comme un inlassable Big Bang miniature, chaque matin, à une vitesse inversement proportionnelle à l'intensité du soleil, les bêtes partent en quête de la meilleure herbe selon un mouvement uniforme jusqu'à buter contre un rocher, une falaise, un chien, un berger. Alors, sans cesser de brouter, l'animal rebondit sur l'obstacle dans la direction opposée. Le troupeau dessine, grandeur nature, sur l'alpage, un schéma implacablement logique. Laissés en liberté, les bêtes se réunissent en groupes d'affinité familiale, psychique ou raciale. La mère avec ses petits, les agneaux indépendants réunis en bande, les bêtes élevées en forêt entre elles, les charolaises à l'écart des autres. Chaque clique s'organise autour d'un ou de plusieurs animaux pilotes, des bêtes dominantes, à fort esprit d'insubordination, qu'il vaut mieux avoir à l'œil. Le but étant de restreindre les velléités de dispersion du troupeau, sans empêcher ce dernier de brouter, de lui imposer une limite pour qu'il ne mange pas que la meilleure herbe et piétine le reste. On obtient ainsi un troupeau, un organisme chaotique mais prévisible. Une société précaire mais ordonnée, un système qui obéit à une équation dépendant de l'heure, de l'eau, de l'herbe, de la température, de l'appétit, du soleil et de quelques autres variables que j'aurai tout loisir de découvrir ces prochains mois. Et les animaux ? Il est 17h. Robert dit au revoir aux chiens. Il dit vouloir rester mais son patron l'attend cette nuit pour des livraisons. Il est déjà en retard. Il me dit « à jeudi ». Et encore une fois, tu verras, le métier veut déjà venir. Cette fois, je suis seul. Jeudi, c'est dans 5 jours. seul, à exercer un métier qui veut déjà venir, à expérimenter un schéma évident, une cosmogonie petit format. Dans le troupeau, je suis Dieu. Sur ce minuscule lopin de terre, j'expérimente la vie d'une petite société de 1000 membres, 1000 machines à vie qui consomment de l'eau, de l'herbe, produisent de la viande et des agneaux. Au sein de cette modeste société, j'ai l'arrogance d'un Prométhée qui croit dominer la nature et tire, à la place d'un autre, les ficelles de marionnettes vivantes. L'état de grâce est fugace. Malhabile avec les chiens, nerveux avec les moutons, mal positionné, trop autoritaire, trop braillard, je marche plus qu'il n'en faut, m'épuise, avance d'une bonne heure le retour au grenier, y distribue du sel qui facilite la digestion et stimule l'appétit, clôture le passage de la chaux et contient tant bien que mal les bêtes dans un périmètre restreint jusqu'à la nuit. Si tous les jours sont comme celui-ci, non. Je ne tiendrai pas jusqu'à octobre. En juin, les journées y sont interminables, longues comme des jours sans pain. Une touffe d'ortie remue à peine dans l'embrasure de la porte. Des oiseaux invisibles poussent de petits cris tièdes. Un moucheron remonte les carreaux poisseux de la fenêtre. Le café italien de 20 heures ne suffit pas. De vagues bêlements et la clochette de 2 mules. Grelot de vache, grelot de froid. On devine la rivière au-dessous. On sent les insectes se glisser sur la nuque. 2 phares d'automobile remontent la vallée. Debout, sur le pas de porte, je distingue à peine les premiers moutons qui me narguent en contournant les clôtures, vilant vers la chaux. Tina, à droite. Tina ne comprend pas. Je m'énerve, c'est pire. Je marche, Brina me suit, je cours. Tina est partie rapercher. Elle en oublie 2 qui continuent de filer vers le grand chalet. Je presse le pas. Il fait nuit. Les tours d'Aï sont éteintes. Ne subsistent que les vestiges rosés du soir. Putain de bordel de merde, Tina. J'ai dit à droite. La montagne résonne. Toute la vallée m'entend. Tina comprend. C'est bien, Tina. Au pied, Tina. C'est bien. De retour à la case. À l'aveuglette. Je plante une bougie dans le goulot d'une bouteille vide. Celle du dîner. L'allume et me laisse distraire par l'environnement singulier qui scintille avec la flamme. Fixé au mur, le couvercle d'une tome des Bauges 45% de matière grasse. Accroché à une poutre noircie des grelots de toute taille, une lampe de poche à filtre vert et rouge, une publicité pour une marque de laine sur laquelle figure une femme qui tricote à même le mouton. Des cornes de chamois, les herbes poussiéreuses d'un berger qui les utilisait comme remède, le psaume 143. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Un pantalon de marin, une pèlerine militaire. 2 plaques à gaz, des sacs de 15 kg de croquettes, une petite armoire en treillis de fer avec du magie, de la moutarde, du beurre, 2 livres de pain, un ingénieux tranchoir de saucisson du lard et un immense morceau de fromage. Dans l'évier, la vaisselle de midi. À proximité, un linge crasseux et une éponge graisseuse. À l'autre extrémité de la pièce, au-dessus d'un large foyer, un bras formé de 2 poutres qui servaient à fabriquer le fromage. Aujourd'hui, il ne sert qu'à sécher une paire de chaussettes imbibées de rosée. Sur la table, 3 livres, un pull en alpaga, des sandales en cuir de dromadaire du marché d'Om Durman et un cahier quadrillé. C'est l'heure. Et dormi comme une masse. Pas besoin de pousser le volet, il fait encore nuit. Il est 5 heures. Bonjour les chiens. Tranche le pain. Quelque chose à étaler. Mâchonne distraitement. Le café bout, trop chaud. Une lampée de goldamine de zoug. Remplis ma besace de croquettes et m'en vais. Tina et Brina me suivent. Le jour pointe sur la tour du Famelon. Il fera beau. En se réveillant dans le calme, les chiens seront calmes et les bêtes resteront calmes. Montre-moi ton troupeau, je te dirai qui tu es, en quelque sorte. Pour réduire les efforts physiques et optimiser les déplacements, le berger évolue avec patience et sérénité, sans brutalité ni brusquerie. Le corps souple, les chiens flairent les contractions musculaires. Sans mouvement aléatoire, le berger se déplace rigoureusement, selon des étapes préalablement réfléchies et calculées, sans précipitation ni éclat, s'imposant d'une voix bien posée, rassurante, par des gestes précis et clairs, le plus souvent silencieux, car le troupeau aime le silence. Cela reste de la théorie. Entre chien et loup, au soir du cinquième jour, alors que le troupeau gravite autour du grand chalet, je le délimite en dessinant d'amples cercles concentriques, fatigue les chiens, brise un bâton de rage sur la croupe d'une brebis récalcitrante, la faim au ventre, j'ai aussi froid que j'avais chaud l'après-midi. Pour fixer les bêtes en un endroit précis, je distribue du sel, surveille, redistribue du sel, délimite le troupeau, lance les chiens, trotte, déambule jusqu'à la nuit, jusqu'au dernier bêlement. Épuisé et satisfait, j'abandonne un troupeau homogène qui sommeille au lieu voulu pour le retrouver le lendemain matin, 5 heures tapantes, dans un tout autre endroit, parce que quelques meneuses en ont voulu ainsi. On se ressaisit. On s'incline dans l'herbe. On caresse les chiens, on respire, on relativise. Rien ne sert de tirer sur une carotte pour la faire pousser plus vite. Le lieu de couchade retenu par le troupeau n'a rien de hasardeux. Il reste le même d'année en année, un endroit rassurant, loin des hautes herbes et des bois, à l'abri des prédateurs et du vent. Parmi les animaux domestiques, le mouton est, contrairement à la fable, l'un des moins dociles. Esselé, il est peureux, impressionnable, fugitif. Un geste brusque ou un bruit insolite le font déguerpir dans la direction opposée. Lorsque l'on voit un troupeau suivre bonnement le berger, en tête de peloton, on salue le résultat de plusieurs années de dressage intensif, de supervision constante. En règle générale, le mouton fuit l'homme et s'écarte du troupeau. S'il est grégaire, c'est par son manque d'esprit inventif. Son comportement se répète inlassablement au cours de semblables situations. L'unique trait d'intelligence du mouton réside dans sa mémoire. Lorsque, d'une année à l'autre, il reconnaît les lieux de couchade, les bons pâturages, lorsqu'il n'oublie pas l'homme qu'il a brusqué, lorsqu'il reconnaît l'appel du berger, distingue les aboiements des chiens. Ne plus forcer. Laisser faire. Apprendre la contemplation active, l'attention au moindre bruit, au moindre comportement, individuel ou collectif, signe avant-coureur de la santé et de l'avenir du troupeau. Une bonne école pour celui qui est d'un naturel anxieux et désordonné. Ne plus forcer. Faire en sorte que le choix du troupeau corresponde au sien. S'appuyer sur les éléments, les spécificités des herbages, les nuances d'éclairage, l'approvisionnement en eau, les obstacles naturels, la pente. Le troupeau se commande à distance, par magnétisme, de manière globale et intuitive. Il répond à ce qui nous dépasse, la trajectoire du soleil, l'état de la lune, le relief de la montagne et les aléas du climat. Ne plus forcer. La nature s'auto-régule, elle ne s'esclave pas. Chacun de ses mouvements a une incidence sur le tout. Ne plus forcer. Gravir une montagne ne la change pas. La profession apprend à rester en bas. 24 heures sur 24, son école communautaire m'enseigne, par immersion, à ne pas sauter les paliers. Une cigarette roulée entre mes doigts crevassés, accroupie sur une pierre, attendant la nuit, à l'écoute des raclements, des arrachements, des ruminations, des bêtes, je décline, du vert au gris, les nuances du soir. Cette fois, je suis seul. Le rocher qui trône devant la case serait le seul passe-temps à offrir à un enfant de 3 ans. Les excréments de moutons multiplient les orties. La pente dissuade d'aller jouer plus haut et rien pour fixer une balançoire. Cette fois, je suis seul. Ce rocher n'est plus qu'une poussière de pierre détachée des crêtes. Un abri contre la pluie, un dossier pour ne plus savoir qu'écrire. À la lueur d'un quart de lune, quand on ne sent pas meilleur qu'un sapin, accroché aux falaises, les racines narguant le vide. Quand c'est l'heure, qu'on a dormi comme une masse, pas besoin de pousser le volet, il fait encore nuit. On caresse les chiens, coupe une tranche de pain et mâchonne, en attendant le café, sa goldamine. On s'asperge le visage, lasse ses souliers, remplit sa besace, referme la porte et on s'en va en jetant un œil sur la tour du Famelon. Je me réveille à 5 heures, je mange mon petit déjeuner et sors les animaux pour qu'ils soient au point d'eau à 13 heures. Je les fais pâturer et les ramène à 17 heures à l'enclos. Je rentre pour préparer la marmite et me faire du thé. S'il y a de l'huile d'olive, je prends un peu de pain en buvant mon thé. Je prie Dieu. La illa la Mohamed Rasullah Allah illa Mohamed Rasullah. Je m'endors. Prière mise à part. Un vieux pâtre du Moyen Atlas algérien ne travaille pas autrement. Pour que le labeur devenu routine n'abrutisse pas tout à fait l'esprit, je varie le rythme. De 5h30 à 10h, je mène le troupeau vers l'alpage choisi, le surveille, puis rejoins en coup devant la case. Prends le petit déjeuner et reviens avec des cisailles pour couper les sapineaux qui foisonnent dans les pâturages, tout en surveillant les bêtes. Dès 13h, un réservoir de 20 litres sur les épaules, zigzagant dans la prairie qui domine le barrage de Longrain, je la traite contre les chardons. À 16h, Robert me rejoint pour aider le vacher de l'Avenir à charrier du sel à dos de mule jusqu'à la case du pré. Invité à souper chez le vacher, je dois faire vite, refuser les derniers verres, filer au grenier pour réunir les bêtes et les surveiller jusqu'à la nuit. La nuit tombe à peu près vers 22h. Le jour se lève un peu après 5h. La loi de la nature n'est pas celle des 35h. En France, pour ne pas bafouer les droits sociaux, les bergers reçoivent des engagements de 7 mois, alors qu'ils n'en travaillent que 3 ou 4. Les mois restants, ils prennent des vacances ou travaillent au noir. Un salaire. Du latin salarium, ration de sel, de misère. À peine de quoi manger et boire, mais une prime d'encouragement, un bonus inespéré à la fin de chaque journée, une pastille rouge dans le ciel. Le silence et la fatigue. Rien à écrire de spécial, s'effondrer sur un matelas, connaître sa chance. À l'époque, on couchait sur de la paille qu'on ne changeait qu'au printemps. S'il faisait trop froid, on couchait à deux dans la même caisse. On n'était pas à plaindre. Les transhumants hivernaux dormaient dehors, enroulés dans une pelisse de laine, une bâche de plastique, ou, quand le mercure chutait, dans le cercueil. Ces boîtes de bois charriées par un âne, avec une ouverture de côté pour que le berger puisse s'y allonger. C'est l'heure, encore dormi comme une masse. Il faut tremper le pain dans le café. La bouteille de Goldamine est presque vide. Le sac de croquettes l'est tout à fait. Aujourd'hui, journée décontractée. Assis sur une crête, dans un herbage ventilé, sur une pierre plate déposée, j'imagine, par un berger, la tête des chiens sur les cuisses. Sur le flanc de la pointe de l'Avenir, quelqu'un charogne parce que les piquets sont humides et cassants, parce que le sol est caillouteux, parce qu'il en a marre de clôturer. On peut écouter les chevrotements d'une brebis qui a son agneau à proximité. Les bêlements brefs d'une autre qui indique sa position à un petit perdu. Les cris prolongés, répétés, à bref intervalle, d'une troisième pour ordonner à son agneau de venir téter. Les réponses des agneaux, désespérés ou satisfaits, ou les charognés du vacher de l'Avenir. Le métier, si elle a la rêverie. On s'éparpille, on se projette à perte de vue. Depuis les crêtes, on domine les voiliers du Léman, les plis triangulaires laissés dans le sillage du Savoie ou du Simplon. L'arbre isolé au large de Villeneuve. Une dragueuse à un offshore, une plaque d'argent à la hauteur de Lausanne, une coulée de cuivre aux alentours de Montreux, des détails de verre près de Vevey, des bâtiments compliqués, les uns sur les autres comme un troupeau qui a soif et se bat pour atteindre le rivage. Gravité aquatique, attraction du plat. Le lac est à l'envers. Il regarde depuis sa source. Presque à ma hauteur, les rochers de nez dont on ne distingue pas les enclos à marmottes. Au-dessous, une petite vallée reculée. Une route, à moitié bétonnée, mène à une charmante petite ferme tout en désordre. Pour la traite des vaches, le moteur d'un vieux tracteur sert de génératrice. Cette incorrigible manie de ne décrire que ce qui est humanisé, donc nommable, d'en faire l'inventaire en n'éludant l'impression ressentie. Les dents du Midi, par exemple, ne font pas 4000 mètres, mais leur proximité avec la vallée du Rhône donne l'impression de grandeur. Celui qui lève la tête parle de haute montagne. Avec méthode, on ôte soigneusement l'épiderme, épluche la couche superficielle des constructions humaines, creuse la question fait la synthèse. Géologiquement, les alpages sont nés dans le bassin marin de la Tétis, par dépôt et accumulation de sédiments, il y a une ou deux centaines de millions d'années. Tectoniquement, la pente des pâturages s'explique par la collision des continents africains et européens il y a 40 millions d'années. Géomorphologiquement, ces herbages ont connu les incidences de la pluie, du gel et du vent. Les tours d'Aï ont maintenu leur verticalité, car elles sont formées de roches calcaires résistantes. Géologie. La vallée de Longrin, premier pli de la chaîne alpine, affiche des reliefs modestes, mais suffisamment marqués pour que les maisons s'appellent chalets, les cerfs chamois et les êtres épicéas, tectoniques. Le lit des ruisseaux à sec est exagéré et de puissantes avalanches de pierres ont coupé l'herbage en deux, géomorphologie. Sur son petit lopin de terre, l'homme se débat au milieu des éléments, cherche à imposer ses quelques décennies à des roches vieilles de millions d'années, s'agite si fort qu'on ne voit que lui, qu'on ne parle que de lui, qu'on n'écrit qu'à son adresse. Pour les paysans, les plus vieux, l'histoire de la vallée de Longrin remonte aux années 60, lorsqu'une compagnie hydroélectrique rachetait les parcelles des autochtones pour y construire un barrage. Ensuite, la mémoire se noie. N'émerge qu'une structure de béton, ses arches esthétiques et un lac artificiel qui justifie chez nombre d'automobilistes un puissant détour pour se perdre dans ses reflets. Pour les vachers les plus jeunes, la vallée de Longrin ne doit son nom qu'à l'arrivée des convois kaki, des tanks brusques, des tactiques de guerre pour recrues belliqueuses. La vallée de Longrin est née dans les années 60, époque incertaine des légendes les plus anciennes, du temps où les rois épousaient les bergères. Peu de gens s'en souviennent. La vallée est au service de l'homme, à peine si la nature s'est fait entendre le 26 décembre 1999, lorsque le vent déchirait les forêts. Lothar s'est incliné devant les sites militaires, la station hydroélectrique. Des guerriers sans guerre continuent de guerroyer, un lac sans légende de stagner. Une vallée sans église, sans place de village, sans bistrot. Une vallée étroite, forestière, moderne, étatisée, asphaltée et peu touristique. Une vallée sans clôture, sans habitants à l'année, sans dialecte, sans artisanat, sans compte, sans rassemblement et sans fête. Une vallée où je me plais. Car il faut être moderne, ne pas idéaliser un passé qui camoufle ses douleurs. Plus que toute chose, la montagne est une construction de l'esprit, rarement l'incarnation d'un paradis perdu en hultant le refuge des dieux. Pied au plancher, coupant les virages autant que possible, à plein régime sur la large route qui mène à la Lécherette, j'apprécie les doubles voûtes du barrage, le profil du progrès. 125 mètres de hauteur, 235 mètres cubes d'eau, 325 mètres de couronnement. J'apprécie le luxe d'exercer un métier plusieurs fois millénaire, à moins d'une heure de route d'un théâtre contemporain. Lorsque les inspecteurs du chef-lieu passent la journée en altitude pour faire respecter l'esthétique montagnarde, on pouffe, on se bidonne, car un toit en tavillon de bois demande 5 fois plus de travail qu'un toit de tôle, et autant en restauration. Le tonnerre brise la rêverie. Un éclair de raison pour reprendre pied. La France perd ses détails. Les rochers de nez servent de paratonnerre puis disparaissent. Les épis des crêtes dansent, puis se couchent. Le lac se grise, puis se brouille. Un vert invraisemblable m'entoure, comme un îlot au milieu des cendres. Plus aucun cri d'oiseau, au pas de course, direction le Grand Chalet. Patiemment, sous la pluie, je muse les doigts sur une ficelle nouée autour d'un écrou, cherchant à ouvrir la porte. La première pièce sert de réduit. Une odeur tenace de souris crevée contraste singulièrement avec la fraîcheur de l'orage. Sur le sol, pêle-mêle, une veste à carreaux, de l'eau de Javel, de la distillerie de Châteaudet, du sel agricole de B, des piquets, de la tôle, trois cages jaunes des Bujards de Lutry, un abreuvoir de plastique, une faux et un matelas. L'œil exhaustif fait passer le temps. Une seconde porte mène à un petit dortoir. Les matelas sont protégés par une fine pellicule de plastique. Ensuite, une pièce conviviale, de préférence par temps découvert. L'unique lucarne ne suffit pas à éclairer les lieux et la pluie cogne sur la tôle. Brina et Tina s'allongent sous la table. Des nids de guêpes et de la mousse tombée du toit jonchent le sol. Entre la vitre d'un tableau et un portrait de chasseur, un Edelweiss séché. 6 cornes de chamois, un Cabernet Sauvignon Grand Coronas 1995, une fleur sculptée dans le bois, des verres à blanc estampillés Abbaye de Lézins, Volontaire des Alpes, Tir de Bourgeoisie, Fanfare montée du Chablais, un jeu de cartes L'Homme Noir. Le perdant se voit maquiller le nez, le front et les joues d'un bouchon préalablement noirci. Un caquelon à fondu, des stylos dans une base d'obus non éclatée, des bouteilles d'eau de vie sans étiquette, un Skanderbrew spiritueux albanais à 40 degrés, une damascine locale dans une bouteille d'ivorne, de la Svetchgenwasser Pruno, le portrait de 3 autres chasseurs, fusil en main, genoux au sol, chapeau tyrolien, 4 chamois suspendus, au dos, leur patronyme, Régamet, Fontanet et Pachou. Sur le cadre d'une peinture naturaliste sans intérêt, un message à peine lisible. Pour le respect de nos ancêtres, prière de ne pas poser les mains sur ce magnifique souvenir, merci. Un message daté de 1845. Un magazine de chasse, de la publicité pour la montre Diana. Son boîtier est d'un verre que nous connaissons bien, celui de tous nos habits de gala, orné en son centre d'un magnifique trophée de cerf 12 corps. Une nouvelle façon pour le chasseur de s'y distinguer discrètement du commun des mortels. Sur un vieux fauteuil, recouvert d'un drap poussiéreux, je fume et sèche, en attendant que la pluie ait fini de laver la terre. La chasse ne s'ouvre que dans 2 mois. Régamet, Fontanet et Pachou ne me surprendront pas.
C'était Blaise Hoffmann qui nous lisait quelques extraits de son récit Estive.